On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà, nous allons lire un texte ce matin. Ce soir, on va parler de Salomon. Shlomo. C'est pareil? Ah, c'est pas pareil, c'est mieux en hébreu. C'est mieux. Oui, oui, c'est mieux en hébreu. Shlomo, je dis Shlomo, Shlomo. Voilà, on va parler de Salomon. Nous y sommes depuis quelque temps. C'est tellement enrichissant. Alors, on va lire dans 1 Chronique 28. 1 Chronique 28 et au verset 1er. Nous sommes avec le papa, c'est David. Il va un peu expliquer les choses d'une manière très officielle à tout le peuple. 1 Chronique 28, verset 1er. 1 Chronique 28, voilà, verset 1er. Donc nous lisons. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parenthèse, nous savons le nombre de fils. 19. 19 premiers-nés fils. En fait, c'est comme ça qu'il faut le... Dans les généalogies, il comptait les premiers-nés. Les autres, c'était les autres. 19. Ça fait un livret de famille, comme ça. Tamponné et tout. Donc il le dira, parmi tous les fils que Dieu m'a donnés, Dieu a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit... Salomon, donc c'est Dieu qui a dit à David, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, et c'est pourtant un Dieu d'amour, hein, le Seigneur, hein, il ne change pas, hein, mais parfois il y a des paroles, hein, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui servent de sanctuaire, fortifie-toi et agis. On restera sur ce dernier verset, la parole d'un père à son fils, fortifie-toi et agis. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Et imaginez la pression que de Salomon. Alors, quel âge a-t-il? Difficile à savoir. Ça dépend des généalogies qu'on considère. Les deux principales vont être, du moins, les traditions juives qui font de Salomon un jeune homme pré-ado de 12 ans. Tradition juive. Si on regarde les généalogies évangéliques du style Thomson, etc., il aurait 19 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a aucune expérience en la matière. D'où sa prière, « Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir discerner entre le bien et le mal et savoir bien diriger ton peuple. » Qu'il est 12, qu'il est 19, ce qui est sûr, c'est que son père lui dit maintenant, « Considère que tu as été choisi de Dieu. » Imaginez le regard des 18 frangins. Du moins, il n'y en avait pas 18, certains sont déjà morts. Mais les autres, et quand même, vous imaginez au sein d'une famille ce que ça peut faire, cette histoire-là. Les rivalités. Parce que les pratiques étaient que ce soit le fils aîné. Bon, il n'est plus là, il est mort. Donc, après c'est le second. Bon, il n'est plus là, il est mort. Le troisième, bon, il n'est plus là, il est mort. Bon, mais les autres, ils sont encore vivants. Salomon, lui, vient bien plus tard. Imaginez ce qui était normalement, légitimement, aurait dû avoir la place, selon les coutumes, etc., etc. Voilà. Et pourtant, le père, donc David, dira devant tout le monde, devant toute la famille, sa famille, mais devant les autorités, les chefs militaires, tout le monde, Dieu t'a choisi maintenant, sois à la hauteur, agis et construis le temple du Seigneur. C'est pas rien quand même. Hein. Et si vous connaissez l'histoire de Salomon, je pense que oui, un petit peu en tout cas, vous savez que dans son service-là, parce qu'on va appeler ça un service, il va réussir. Pourquoi? Au moins deux raisons. Parce que il a bien fait les choses, il a bien fait les choses, il a su rester dépendant de Dieu. Jusqu'au jour où. Oui, mais jusqu'au jour où l'œuvre était finie. Le temple était déjà construit. C'est à la fin de sa vie qu'il va déraper, malheureusement. On en parlera en son temps. Mais au tout début, le temps du chantier, tout va marcher bien. Tout marchera bien parce que le bonhomme, il est tellement terrorisé par la tâche qu'il va passer vraiment du temps à chercher la face de Dieu pour éviter de faire n'importe quoi. Imaginez, c'était quand même... Bon, on va prendre la généalogie de Thomson, évangélique, 19 ans. Quand même, 19 ans. À 19 ans. Être à la tête du peuple de Dieu et accomplir les projets de Dieu à la suite de son père qui a été un homme, mais tellement apprécié parmi le peuple. Oh, il a eu ses erreurs, mais c'était un homme il a été considéré d'une expérience remarquable. Et succéder à un tel exemple, c'est pas rien quand même. Et souvent, on dit, on l'entend souvent quand ce sont les enfants qui prennent la suite des parents, du père, etc. Ah oui, mais c'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Souvent, on le voit dans le ministère. Quand le père a eu un ministère et qu'il part à la retraite, mais que le fils rentre dans le ministère. Ah oui, ben c'est sûr, c'est le fils d'eux. Comme si on oubliait la personne et on se rappelle que du modèle initial, le père. Mais imaginez, Salomon, le regard. Ah, c'est le fils d'eux. Est-ce qu'il va y arriver, le fils d'eux, à faire ce que le père a fait en son temps? Oui, il va y arriver, parce que Dieu sera avec lui et parce qu'il sera resté attaché à Dieu. Il va chercher de tout son cœur Dieu. Et Dieu se laissera trouver et Dieu va le qualifier, Dieu va lui donner la sagesse. C'est impressionnant cette prière qu'il fera alors qu'il pouvait, Dieu lui demande, vas-y, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Oh, j'imagine que nous, on aurait sorti toutes les listes. Je voudrais une belle maison, ah, j'en voudrais deux, t'as une voiture, un métier, plein de trucs, plein de... Et Dieu est, oh certainement, bon, il sait tout Dieu, mais on imagine la surprise du Seigneur, mais tu m'as rien demandé de tout cela, t'as rien demandé pour toi. Bon, la sagesse, tu la veux, ok, je te la donne, mais même parce que tu m'as rien demandé, tout le reste, je te le donne. L'argent, t'as pas voulu, ben, je te le donnerai quand même. C'est impressionnant. ce jeune homme de 19 ans, ou préado de 12 ans. Ça dépend comment vous regardez les choses, mais bon, on va voir. Il reçoit de Dieu tout ce qu'il lui faut pour accomplir l'œuvre du Seigneur. À la fin, bon, c'est autre chose. Je crois qu'au-delà de Salomon, nous sommes nous aussi des enfants de Dieu. Oui, c'est bon, hein, se le rappeler, hein. Choisi de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, c'est parce qu'un jour Dieu a posé ses regards sur moi. Et Jésus le dira à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai même établi. Établi pourquoi? Pour que vos fruits soient... Là, il y a un mot, il est... Non, c'est pas ça. Non. C'est un mot très particulier. Que vos fruits soient... Non. Qui l'a dit? C'est qui le dit? C'est Chamuel? Chamuel? Durable. Que votre fruit soit durable. Durable. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a choisis, non pas parce qu'on le cherchait, mais parce que Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous. Et c'est parce qu'on l'a trouvé, parce qu'il s'est rapproché de nous. Et dans son intention, c'était de faire de nous ses enfants, par adoption, mais dans un but très précis, que notre fruit soit durable. Bien sûr, vu de tous, un fruit qui dure aux yeux de tous, mais un fruit qui va se manifester aussi au travers de tout un programme que Dieu a choisi. Est-ce que c'est Salomon qui a planifié son règne? Certainement pas. Il est rentré dans des choses qui avaient été préparées bien à l'avance par Dieu. Et même son père avait déjà préparé les préparatifs du projet de construction du bâtiment du temple. Il n'a fait que rentrer dans des choses qui étaient préparées d'avance pour lui. La vie chrétienne, et souvent vous l'entendez, c'est des œuvres préparées d'avance parce que nous sommes en Jésus-Christ adoptés par le Père. Des œuvres préparées d'avance. La parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, c'est sûr, ça se fait. Ça se fera. Il avait été décidé de Dieu que Salomon serait successeur de David. C'est Salomon, c'est Dieu qui l'a dit à Salomon, c'est ton fils que j'ai choisi. Donc, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions, et il y en a eu, Adonijah. Bah, lui, il n'a pas vu d'un bon œil l'histoire, hein. Il a voulu s'opposer, il a voulu court-circuiter, essayer de prendre le trône avant que Salomon ne soit mis sur le trône. Il a essayé sa tentative de coup d'État, il a essayé, mais ça n'a pas marché parce que Dieu n'a pas permis que ça aille plus loin. Dieu a renversé la situation et on connaît malheureusement la fin d'Adonijah, hein, ça a mal fini pour lui. Quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Et je voudrais vraiment faire la différence entre la parole de Dieu, les paroles de Dieu, entre les décrets de Dieu. Vous savez, les décrets, c'est immuable. Hein. Ce que Dieu a dit, ça se fera. Que tu sois d'accord ou pas, ça se fera. Un exemple, Jésus reviendra. Vous n'êtes pas d'accord? Ça se fera quand même. Voilà. Vous voulez faire du chantage avec le Seigneur en disant « Non, je veux pas, parce qu'il faut que ma famille soit sauvée. » Dès que l'horloge aura, ça se fera. Que ta famille soit sauvée ou pas, ça se fera. C'est les décrets. Et la Bible est pleine de décrets. Mais après, il y a les projets de Dieu. Et les projets de Dieu, c'est pas parce que Dieu les a formulés, c'est pas parce que Dieu les a préparés d'avance, c'est pas parce que Dieu les a planifiés qu'ils vont se faire. Parce que, en fait, ça va dépendre de notre obéissance. Regardez, les projets que Dieu avait pour Salomon, ce sont des bons projets. Mais regardez les conditions que Dieu lui-même a mises. Si tu restes attaché à moi, si tu me recherches tout le temps, si tu restes fidèle et si tu marches sur les traces de ton père, alors ça marchera. Tu iras jusqu'au bout des projets qui ont été préparés. Alors dans la Bible, il y a des décrets, c'est immuable, on peut pas contester avec ça. Un jour, la terre sera détruite. On aura beau faire toutes les révolutions, toutes les manifs et tout ce qu'on veut, la terre, elle sera détruite. C'est comme ça. Mais sur nos vies, il y a des projets que Dieu a élaborés, pensés, avant même que nous soyons ses enfants. Dieu savait, c'est lui qui les a fixés. Mais ils ne se feront, vous ne les vivrez que si vous lui dites, me voici, sers-toi de moi. Parce que Dieu va pas vous manipuler, Dieu va pas vous contraindre, Dieu va pas vous forcer, Dieu va vous proposer de rentrer dans son plan. Et c'est là que ça nous renvoie quand même à une certaine responsabilité vis-à-vis de Dieu. Avons-nous compris l'engagement dans lequel nous nous sommes engagés en passant par les eaux du baptême? Réellement compris ce à quoi nous avons dit, oui Seigneur, toute ma vie, je ferai ta volonté. Avons-nous compris que les projets de Dieu, c'était par définition les projets de Dieu et pas forcément ce que moi j'aimerais? Dieu planifie toute chose. Dieu planifiera toute chose. Des œuvres, souvent le texte, nous le lisons. On peut le mettre, s'il te plaît, la première diapo, c'est un texte qui est très connu. C'est Éphésiens 2:10. Nous sommes, dira cette parole, son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin, du moins il l'espère, que nous les pratiquions. La parole vivante traduira ainsi, Dieu nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Et regardez combien ce sont les mêmes conditions que Salomon a reçues. Tant que tu resteras attaché à moi, ça marchera. Tu feras mes œuvres. Et là, on les retrouve, hein. Pour faire des œuvres tant que je suis dans la communion avec Christ. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. La marche avec Dieu, c'est rentrer dans les projets du Seigneur. Dans ces œuvres-là, dans ces œuvres-là. On est très loin. Il faut sortir de ce raisonnement. Oui, mais moi, je crois en Dieu. C'est bon. Ben, ouais, c'est bien, mais ça t'a fait rentrer dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, ça va plus loin que le simple fait d'adhérer et de croire à son existence. Il faut que ta foi se mette en mouvement. Parce que la foi sans les œuvres, c'est rien, quoi. C'est mort. Ta foi doit t'amener à des œuvres, mais pas n'importe lesquelles, celles que Dieu a préparées d'avance, les fameux projets de Dieu. Et Dieu a des projets pour chacun. Donc Dieu nous observe, Dieu nous regarde, et Dieu se dit, mais allez, il faut y aller maintenant. Faut y aller. Agis, comme dira David à Salomon, agis et prends confiance, vas-y, agis maintenant. Il est temps de rentrer dans le plan de Dieu. Alors les œuvres de Dieu, c'est vraiment, c'est indéfinissable, parce que c'est tellement particulier, tellement personnalisé, qu'on ne peut pas forcément dire ce qu'est une œuvre de Dieu. Des fois, ça peut être des choses particulières, tellement particulières que c'est significatif, et des choses parfois à long terme, mais des fois, ça peut être tellement ponctuel. Ponctuel. Quelque chose de tout bête. Une rencontre dans la rue, une discussion avec une personne, des choses parfois qui... Mais c'est tellement insignifiant qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train d'accomplir une œuvre de Dieu sur le moment. Et ouais, ça part dans tous les sens, ce projet de Dieu dans nos vies. Faut pas... Sortez de ce raisonnement, les projets de Dieu, c'est forcément un service dans l'Église. Non! C'est pas que ça! Parce que Dieu, il vous veut pas simplement actif dans l'Église, mais actif dans la vie, avec lui. Avec lui. Et la vie avec lui, c'est tous les jours. Il le dira, Jésus, je suis tous les jours avec vous. Parce que tous les jours, vous allez être mes serviteurs et mes servantes. Et c'est vrai que des fois, on a réduit ces projets créés pour des projets, des heures, on a réduit ça à une activité d'église. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est pas que ça. Dieu est plus grand que ça. Dieu, il veut faire de nous des serviteurs à. Tous les jours, tous les jours. Parfois dans des grandes choses, parfois dans des petites choses. Dieu est un Dieu de détails, hein? Un Dieu de détails. Regardez, je pense à cet homme, je crois que c'est Hiram. Hiram. On est du temps de Moïse. Dieu, Moïse a reçu la révélation du tabernacle. C'est le moment de construire le tabernacle. Oui, mais Moïse, lui, ben, c'est pas trop son job, hein, c'est pas son boulot, il sait pas trop. Hein. Lui, il reçoit les plans, c'est tout. Et voilà que Dieu va susciter un homme, Hiram. Et cet homme, il va être un manuel. Que Dieu bénisse les manuels. Hein. C'est Dieu qui a créé les mains. Hein. Oui, mais Dieu va donner la dextérité à ses mains pour confectionner tout le nécessaire, les métaux précieux, le fait de faire fondre le métal et de le forger, tout ça. C'est un homme qui reçoit tout ça. Et cet homme, pendant un laps de temps, de quelques instants, de quelques années, on ne sait pas trop, il sera mis en avant parce que c'est lui qui sera le maître d'œuvre du chantier, du tabernacle. Mais après, l'histoire est continue, mais lui, piouf. Comme s'il avait été enlevé. Non, il n'est pas enlevé, c'est que son service s'est arrêté. C'était très ponctuel. À un moment donné, ça répondait à un besoin très particulier, et c'était lui qui avait été choisi de Dieu, qualifié de Dieu. Dieu lui avait donné les talents nécessaires, mais après, paf. Voilà. Comme quoi, des fois, Dieu... C'est curieux quand même, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Mais tout est soumis à notre vouloir, à notre bon vouloir. Veux-tu rentrer dans le plan de Dieu ? Un exemple. Le premier qui a reçu une œuvre de Dieu à accomplir, vous savez qui c'est ? Comment ? C'est Adam. Ben oui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit ? La première parole de Dieu à Adam, ça a été... Va travailler. La première parole, hein ? Va travailler, va garder le jardin, va cultiver le jardin. Ok, mais oui, mais... Il aurait pu dire non, hein. Il avait la capacité, le libre arbitre, de dire non. Mais il le fait de tout son cœur. Il le fait de tout son cœur. Mais c'est en travaillant pour Dieu que, à un moment donné, tout va comme quoi. On peut être dans le plan de Dieu et à un moment, tout faire écrouler parce qu'on n'est plus dans l'obéissance. Un autre exemple. Le premier roi d'Israël, c'est qui? Saül. Et est-ce que le bonhomme, il s'est dit, tiens, je sais pas quoi faire, je vais être roi aujourd'hui? Non? Oh, certainement pas. Il est en train de s'occuper des affaires de son père. Il cherche après les ânes, là, qui sont partis. Il rencontre un prophète, et pas le moindre, hein. Shemuel. Et là, le prophète, il dit, allez, arrête-toi, t'occupe de ça, Dieu a autre chose pour toi. Tu vas devenir roi. Israël. Dieu t'a choisi. Quand même, hein, il est le choix de Dieu. Est-ce que Dieu peut se tromper? Et pourtant, c'est étonnant de voir que l'histoire ne va pas marcher comme Dieu l'aurait, parce que cet homme, à un moment donné, ne fera pas les bons choix. Le prophète va le tester. Dieu va le tester au travers du prophète. Il va le mettre à l'épreuve. Il va tester sa fidélité. Il va tester sa foi. Et quand l'épreuve sera là et que le prophète dira surtout, n'engage pas le combat. Tu attends que je sois avec toi. Tu attends qu'on fasse les sacrifices. Tu attends. T'as rien d'autre à faire que d'attendre que je sois là avec toi. Mais même ça, il n'a pas réussi. On comprend pourquoi. Il y avait la pression du moment et les troupes, ses propres soldats qui partaient, qui désertaient et l'ennemi qui se rassemblait. La pression est telle qu'il a peur, il panique. Et pour essayer de garder ses troupes auprès de lui, il a dit, bon, mais le bonhomme, il est en retard, j'y vais, je me lance, je vais faire les sacrifices. C'est justement quand il commence que le prophète arrive. Et là, le prophète, tu diras, mais malheureux, pourquoi tu as fait ça? Tu as loupé le test. Tu as loupé le test. Dieu te retire la royauté. C'est curieux, c'est quand même. Ah, mais le gâchis. Et parfois, le Seigneur, il est triste parce qu'il voit au milieu de son peuple du gâchis. Ben oui, du gâchis, pourquoi? Oui, on croit tous en Dieu. On y croira jusqu'à la fin même. Mais le gâchis, parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le plan de Dieu, ou on y est rentré et on en est sorti. Parce qu'à un moment donné, l'obéissance, Dieu ne l'a plus vue au milieu de nous, dans nos cœurs. il ne l'a plus vu. Pour X raisons. C'est l'obéissance à Dieu, c'est la soumission à Dieu qui nous maintient dans les projets de Dieu. C'est notre communion avec Dieu qui va nous maintenir dans cette dépendance, ce sentiment de dépendance avec Dieu. Quand ces choses-là, on ne les a plus parce qu'on ne les a plus entretenues, on commence à perdre l'approbation de Dieu sur ce que nous faisons. Et on peut même en arriver à être rejeté de Dieu. Salomon, la condition est, si tu ne me recherches pas, je vais te rejeter pour toujours. Et Dieu peut nous rejeter. Ça n'enlèvera rien à notre foi, parce qu'on y croira toujours, mais on ne rentrera plus dans les œuvres de Dieu parce que notre cœur n'est plus soumis et obéissant. C'est une forme de rejet. C'est comme si les portes des œuvres de Dieu, à un moment donné, elles se ferment. Votre vie d'église peut continuer, votre vie de prière, entre guillemets, pourra continuer, vous pouvez continuer à faire ce que vous faisiez, mais Dieu, à un moment donné, il y aura comme une opposition. Parce que il y a ce sentiment de dépendance, c'est un petit peu, a été rejeté. Regardez, même, je prendrai le premier exemple dans la Bible, le premier qui a voulu couper avec Dieu. Vous savez qui c'est? Alors on n'a pas son nom, bon, astre brillant, tu es un astre brillant. Eh, c'est pas rien quand même, hein? Lucifer, du latin, Lucifer. On parle de celui qui deviendra Satan ennemi en hébreu. Mais astre brillant, tu es chérubin protecteur, au-dessus de tous les autres, tu conduis la chorale. C'est le moustique là. Tu conduis la chorale, bref, comment ça que les choses, on le comprend, on l'interprète. Mais il était au service de Dieu, jusqu'au jour où il a dit, « Oh, c'est bien ce que je fais, mais je veux plus. Je veux diriger, je veux commander, je veux le trône de Dieu. » Dès que ça commençait à germer dans sa tête, dans son cœur, aussitôt, projeté, il perd sa place. Dieu le rejette pour toujours. Et dans sa chute, il entraînera le tiers des anges, malheureusement. Mais ça montre bien qu'il y a quand même, au début, un ange supérieur qui ne fait que les œuvres préparées d'avance. Même pour eux. Et à un moment donné, il a dit, non, je veux plus. Ce que Dieu a préparé, c'est bien, mais je veux plus. Et dès qu'il sera précipité. Tu peux mettre, s'il te plaît, la suite. Je vous ai montré ce diaporama un dimanche lors d'un culte. Je voudrais y revenir. La volonté de Dieu, vaste sujet. On aurait des choses à dire sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, à plus j'appuyais, plus ça défilait peut-être, non? Et vous n'avez pas fermé les yeux, non? Des curieux, hein? Oui, c'est ça, là, ouais, dimanche. Mais je voudrais y revenir. Voilà, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Voilà, j'avais expliqué qu'il y a cette volonté souveraine. En fait, c'est les décrets. C'est-à-dire, Dieu planifie, Dieu décide et on n'y changera rien. Création du monde, destruction du monde et entre-temps, l'Église, enlèvement, la venue de Jésus, le retour de Jésus, votre naissance, votre mort. Ça, c'est des décrets, Dieu sait. Il connaît le nombre de nos jours. Il connaît. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez pour vous tenir en forme, Dieu sait déjà le nombre de jours. Ah ouais, il connaît. C'est comme ça. C'est les décrets. Mais il y a cette partie-là, souvenez-vous, c'est ce que je appellerais cette volonté générale. C'est ce que Dieu souhaite. Dieu le souhaite pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce n'est pas parce qu'il le veut que tous seront sauvés. Seuls ceux qui diront, oui, je veux. Je veux vivre ta volonté. Oui, j'accepte les conditions. Donc les conditions, c'est la croix. Les conditions, c'est la repentance. Les conditions, c'est la conversion, c'est le baptême. Toutes ces choses qui ne sont que des manifestations de notre obéissance. Et plus j'obéis, plus je rentre dans cette volonté générale du Seigneur qui veut par-dessus tout me sauver. Mais si tu veux, toi, ne pas obéir à Dieu, Dieu sera attristé, mais toi tu te perdras sous ses yeux et Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne te sauvera pas de force. Hein. Il ne peut pas te sauver de force. Parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Donc c'est à chacun d'accepter et de vivre l'obéissance de la foi qui nous amène au pied de la croix et qui nous fait rentrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis ces quelques alternatives qui sont là, je veux dire, et même quand tu es dans le plan de Dieu, si tu veux désobéir, tu le peux toujours. Tu peux être converti, tu peux être baptisé, même rempli du Saint-Esprit, engagé dans l'Église, chrétien depuis... on va dire que tu as quelques tampons sur la carte, hein, membre, on va dire que tu en as quelques-uns, hein, mais on t'en a fait une deuxième carte membre, tellement il y en avait. Mais à tout moment, tu peux décider, volontairement ou involontairement, il y a tellement de paramètres dans ce domaine, de désobéir, c'est-à-dire retomber dans le péché, mais Dieu nous laisse toujours le chemin du retour, c'est-à-dire la repentance. La repentance, ça te ramène ici. Mais si tu veux pas obéir, si tu veux pas te repentir, eh bien tu tout seul, tu te disqualifies parce que ta désobéissance va te disqualifier. Donc cette volonté de Dieu générale, elle est soumise à votre obéissance. À votre obéissance. Ici, ça c'est quelque chose de reçu, d'acquis. Mais dans cette volonté générale, il va y avoir toutes les spécificités du peuple de Dieu. On est tous différents. On est tous enfants de Dieu. On est tous sauvés par grâce. On est tous sauvés et rachetés par le même Sauveur. On a tous le même esprit. On a tous la même Bible. Peu importe les versions, mais la même parole de Dieu. Mais il y a ce que je suis en train de vous dire depuis quelques instants, quelques minutes, cette volonté spécifique. On n'est pas tous des Salomon, on n'est pas tous appelés à construire un temple, on n'est pas tous des... On est chacun des individualités, des personnes propres et uniques. Et Dieu connaissant cela, parce que Dieu nous a quand même créés en Jésus-Christ, en nous créant, il a pensé à des œuvres qui seront spécifiques à chacun. Et le ministère du Saint-Esprit sera de vous qualifier pour accomplir ces œuvres que vous n'avez pas choisies, mais dans lesquelles l'Esprit va vous conduire dans la mesure où vous obéissez à la volonté de Dieu. Ça s'appelle, ça a un nom, hein, ça, cette affaire-là, c'est la sanctification. Plus vous vous sanctifiez, plus vous êtes utilisable. Plus vous vous sanctifiez, plus le Saint-Esprit vous conduira dans ces choses, dans ces plans, dans ces projets, court terme, long terme, peu importe, ponctuel, peu importe. Mais plus la sanctification sera dans votre vie comme quelque chose de « j'ai besoin de me sanctifier », plus le Saint-Esprit pourra tout simplement se servir de vous. 2 Timothée 2 nous dit « si quelqu'un se conserve pur », sanctification, « si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » La sanctification ne te rend pas meilleur que les autres, certainement pas, mais permet au Saint-Esprit de te conduire sur le chemin de la spécificité que Dieu a déjà planifiée pour ta vie. En fait, la sanctification, c'est cette soumission, cette docilité qui fait que le Saint-Esprit n'a pas besoin de forcer pour aller te faire mener à droite ou te mener à gauche. Regardez ce texte. Ce texte, il n'est pas flatteur pour le peuple de Dieu. Ne soyez pas comme des mulets. Vous voyez, on passe de la brebis au mulet. Oh, c'est terrible, hein ? Ne soyez pas comme des mulets. On est obligé de leur mettre mort dans la bouche, dans la gueule, pour les diriger. Et des fois, le Seigneur il est obligé d'employer vraiment, il retrousse les manches parce qu'il dit « non, c'est pas possible, je vais devoir le... » Mais là, on n'est plus dans la sanctification. On n'y est plus. On est inutilisable parce que Dieu ne... Il n'y a pas cette promptitude à rentrer dans le plan de Dieu, que ce soit à court terme ou à moyen terme ou à long terme, des œuvres, peu importe les œuvres. Vous savez, quand une œuvre de Dieu se présente, si vous êtes... un proche du Seigneur, vous savez reconnaître la voix de Dieu. Vous sentez. Vous sentez. Vous sentez que c'est là, le Seigneur vous conduit dans quelque chose. Vous le sentez. Et c'est ça qui vous donnera de l'assurance, de la force, du zèle pour accomplir la tâche. Parce que vous sentez que c'est Dieu qui vous pousse à ça. Mais ça, c'est en passant du temps avec Dieu. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. On ne parle pas de « Ah oui, c'est oh, le pasteur, il a bien prêché, c'était bien ce qu'il a dit, c'était de Dieu ce qu'il a dit. » On ne parle pas de ça. On parle d'entendre reconnaître la voix de Dieu dans notre quotidien, quand les choses se présentent à vous. Et ça, ce n'est pas donné à tout enfant de Dieu. C'est donné à ceux qui savent passer du temps avec Dieu, qui savent reconnaître la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Regardez Élie, Élie le prophète, quand il est dans sa grotte. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un bon exemple à ce moment-là, mais le Seigneur, il est là, il va se manifester de plusieurs manières. Et il n'y aura qu'une manière, il n'y a qu'une manifestation qui va faire réagir Élie. Les autres, c'était, on va dire, le grand spectacle. Le feu qui tombe, les pierres qui éclatent, c'est pourtant de Dieu tout ça. Mais c'est comme si c'est les... Voilà, il ne se laisse pas... Mais dès que le vent, le murmure de Dieu passe, alors là, il comprend que c'est du sérieux. Et là, de suite, il se met, il se blottit, il se recroqueville. Et des fois, on se laisse avoir par des trucs. Oh, ça c'est bien, ça c'est pour Dieu, ça va être un bien spectaculaire, ça va être. Je veux ça, ça. Le murmure de Dieu. Suis-je capable de reconnaître le murmure de Dieu? Ça, c'est quelque chose qui se façonne, c'est quelque chose qui s'apprend. Tout comme la voix, tout comme un enfant, un bébé, les petits enfants, ils apprennent à reconnaître la voix de la maman et du papa. Mais comment ils font pour à reconnaître la voix du papa et de la maman? Comment ils font? Ben, c'est parce qu'ils écoutent le papa et la maman qui leur parlent. Et c'est à force de leur parler que le son, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler, mais le son s'enregistre et ils savent après discerner la voix de papa, maman. Et vous pourrez mettre à côté d'eux d'autres papas et d'autres mamans, ils diront, non, c'est pas les miens, c'est eux. Je les reconnais à leur voix, c'est eux. Vous savez, le diable, il se déguise en ange de lumière parce qu'il va essayer d'imiter Dieu. Il va essayer d'imiter l'action de l'Esprit. Il va essayer de nous mettre des choses qu'on va appeler des mirages. Et on peut croire que c'est de Dieu parce que ça ressemble à Dieu ou à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas parce que ça ressemble que c'est forcément de Dieu. Regardez cette femme. On aurait pu croire que c'était une bonne évangéliste à ce moment-là. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils vont vous annoncer de bonnes choses. Écoutez-les. Elle est bien comme pub, hein? Et pourtant, la femme était animée d'un esprit de python. C'était un démon qui parlait. Mais il parlait du programme de Dieu. Et au bout d'un moment, Paul va sentir, il est irrité, le texte dit, au bout d'un moment, exaspéré par la situation et par la voix de cette femme qui lui mettait les oreilles comme ça, il va discerner et chasser le démon. Et après, elle va arrêter de faire l'évangéliste. Hein. C'est fini, hein. Elle dit plus rien. Elle dit plus rien. Le diable va tromper le peuple de Dieu, mais c'est sûr. Il veut séduire qui? Les élus. Mais comment va-t-il faire pour nous séduire? Oh, il sait très bien que nous marchons avec Dieu, il sait très bien que nous aimons Dieu, donc il y a des pièges, il y a des tentatives, ça ne va même pas marcher. Des choses qui sont maintenant grossières pour nous, ça ne va pas marcher. Alors il va nous séduire par des choses qui ressemblent aux choses de Dieu. Et pour ça qu'il est dit parfois les fausses doctrines. Ah oui, s'il y a les fausses, il y a les vraies. Les fausses doctrines, oui, mais on pourrait dire les fausses œuvres bonnes. Les faux apôtres, les faux ouvriers, les faux Christ, tout ressemble à du vrai, mais c'est faux. Et si on n'a pas ce discernement, dit l'apôtre Paul, dans les derniers temps, beaucoup se laisseront piéger. Parce qu'on leur dira, oh, Jésus est là-bas. Oh, ben on y va vite. Ah, si Jésus est là-bas, il faut y aller. Eh oui. On se perd en allant chercher Jésus. C'est curieux quand même. Hein. Pourtant, le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous conduire dans la vérité, celle de Dieu. Et pour que ça marche, il faut être en mesure de comprendre, de reconnaître la voix du Seigneur, car le Seigneur vous parlera. J'en reviens à ses œuvres. Ça ne s'improvise pas. Ses œuvres bonnes, vous savez, des fois, il y a même des choses qui peuvent paraître bonnes, mais si ce n'est pas Dieu qui vous... Ne le faites même pas. Ne le faites pas. Alors c'est vrai qu'il y a ce texte qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Ouais, mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. C'est vrai qu'il manque des ouvriers. C'est vrai qu'il faudrait. C'est vrai qu'il faudrait. Mais si tu n'es pas appelé, ne fais pas. Je pense à Salomon. Bon, on va dire qu'il a 19 ans. Oui, mais ses frères aînés peuvent paraître plus qualifiés. Adonija, il avait 35 ans. Hein. Ah, ça passait mieux devant le peuple. Ah, c'est pas un jeune homme. Il présente mieux, il a plus d'expérience, il avait du charisme, il avait réussi à rassembler déjà une partie de l'armée, quelques responsables, le souverain sacrificateur, hey, il s'est laissé séduire, le général des armées s'est laissé séduire quand même, c'est pas rien. Et pourtant, oh, peut-être qu'il aurait fait un bon roi, humainement, mais c'est pas le choix de Dieu, c'est pas le choix de Dieu. Valait mieux qu'il reste à sa place. Alors là, on est devant parfois des attitudes étonnantes. Il y a des œuvres, on veut absolument les faire, pourtant Dieu ne nous appelle pas. Et d'autres, on ne veut pas les faire parce qu'elles nous impressionnent, et pourtant Dieu nous appelle à les faire. On est dans des dilemmes, c'est impressionnant. Hein. Regardez Jonas. Regardez la belle œuvre que Dieu lui a préparée. Tu vas... évangéliser, on va le dire comme ça, une ville entière à toi tout seul. Ton message, il va être tellement simple que tu n'as même pas besoin de faire une étude biblique, simple. Et Dieu, mais ça va marcher. Ça va marcher parce que je vais toucher leur cœur. Œuvre préparée d'avance. Et pourtant, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Quand même, hein. Nous, on l'aurait fait, hein. Bah, bien sûr qu'on serait allé. Parce qu'on aime Jésus, on l'aurait fait. On est vraiment étonnant et curieux. Et Dieu a une patience incroyable, incroyable. Alors j'en reviens à ces œuvres spécifiques. Mais voilà. Donc, on peut malheureusement, parce qu'on peut être désobéissant, on peut être démulé, on peut les rejeter, passer complètement à côté de ces œuvres. Parce que soit on ne veut pas, parce qu'elles nous impressionnent, ou parce qu'on ne sait pas peut-être les discerner, parce que, par ignorance, on peut passer à côté. Alors qu'est-ce que Dieu va nous demander dans ce cas-là? Eh bien exactement la même chose que pour la volonté générale, c'est, eh bien, bon, t'es passé à côté, mais demande pardon au Seigneur. Et la réhabilitation, Dieu rétablit. Dieu donne toujours des secondes chances. Dieu donne toujours. Regardez, ben, Jonas. Bon, ok, tu t'es loupé cette fois. Bon, ok, dans le grand poisson, tu as demandé pardon. C'est bien. Et Dieu, comme si c'était la première fois, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et là, il y va. Il y va. Enfin, il obéit. Bon, un peu à contre-cœur, mais il y va quand même. Mais il y a parfois des œuvres. C'est ces œuvres qu'on va qualifier de ponctuelles. C'est-à-dire, elles arrivent à un moment donné. Si tu ne saisis pas l'occasion là maintenant, ben la situation va passer et tu ne pourras jamais la rattraper. Et elles sont loupées. Loupées, mais loupées, loupées. Loupées. Et ça sera pour plus tard, au tribunal de Christ, des récompenses qui auraient été manquées. Manquées. Je veux dire, admettons que dans la rue, je vais prendre un exemple, voilà, dans la rue, vous rencontrez quelqu'un qui a un besoin particulier et vous pouvez répondre à ce besoin, quel qu'il soit, mais vous ne le faites pas parce que oh, j'ai pas le temps, je dois aller à l'église. Vous partez, vous allez vite à l'église, mais le bonhomme, il reste avec son besoin. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas une histoire? Le bon samaritain? Ah, le bon samaritain. Le sacrificateur, le lévite. Oh, je peux pas t'aider. Je dois aller à Jérusalem, je dois aller servir Dieu. Et si je te touche, je vais être impur. Je peux pas. Dieu veut que je sois pur, je peux pas te toucher. Débrouille-toi. Ils passent à côté d'une œuvre bonne. Ils auraient pu aider. La volonté de Dieu, c'est quand même d'aider. D'aider. De pas se détourner du prochain. Et il faudra un samaritain. Un samaritain qui, voyant le bonhomme à demi-mort, s'intéresse à lui. Jusqu'à le prendre en charge et l'amener dans cette hôtellerie où il payera de son le nécessaire pour que l'aubergiste s'occupe de lui. Et Jésus va regarder tout le monde et dire, ben faites pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une œuvre se présente devant vous, quand un besoin se présente devant vous, quelle que soit la personne, même si ce n'est pas un chrétien, si tu es en mesure de l'aider, si tu peux l'aider, si tu peux faire quelque chose de bien pour lui, fais-le. Fais-le. En voilà une œuvre bonne. Oh oui, mais j'ai pas le temps, je dois aller. Rentrer dans les œuvres de Dieu, ça peut être des sacrifices. Parce qu'on aura toujours quelque chose à faire. Toujours autre chose à faire. Mais l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas le choix que nous avons décidé de faire en passant par les eaux du baptême? Le problème, c'est qu'on ne sait pas les discerner, qu'elles se présentent. Parce que notre schéma, c'est forcément quelque chose dans l'Église. Oui, mais les besoins, ce n'est pas que dans l'Église, c'est dans le monde. Le monde est perdu. Le monde est dans un besoin, il ne s'en rend même pas compte. Il y a des besoins spirituels, il y a des besoins moraux, il y a des besoins matériels, il y a des besoins partout. Regardez Jésus. Jésus ne s'est pas occupé de tout le monde, mais il prenait le temps pour certaines personnes. Jésus n'a pas couru après tous les malades, mais devant certains malades, il a pris le temps pour les guérir. Jésus n'a pas enseigné des foules tout le temps. Des fois, il était seul avec une personne, il a enseigné. Parce que Jésus passait du temps avec son Père, et c'est son Père, du moins on l'interprète comme ça, mais je crois que c'est vrai, c'est son Père qui lui donnait les œuvres à faire. Il le dira un jour, Jésus, « Mais je ne fais que les œuvres du Père !» C'est pas Jésus qui improvisait son ministère jour après jour. C'est sa communion avec le Père qui le faisait rentrer dans les œuvres du Père. Et là, il savait s'occuper des œuvres bonnes que son Père avait préparées d'avance. Tantôt c'était devant des foules entières, tantôt c'était devant qu'une personne. C'est un exemple, Jésus, quand même, hein? Savoir reconnaître l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu, qu'elles se présentent là devant nous. Peut-être qu'en partant tout à l'heure, il va se passer une situation, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, mais quelque chose que Dieu avait préparé. Ah ben c'est là qu'on rentre dans le projet de Dieu. Vous voyez que là, on n'est même plus dans le cadre d'un service dans une église. Non, tu es serviteur à plein temps, tu es avec Dieu, c'est tout le temps. La question c'est, es-tu utilisable? Es-tu utilisable tous les jours? Es-tu capable d'entendre et de percevoir la voix du Seigneur qui te dit ça? Vas-y, fais-le. Ou ça, il ne touche même pas. C'est là. Tout est question de discernement. Ce raisonnement, cette intelligence spirituelle, cette sagesse, tout est là, tout est là. Et ça, c'est des choses que nous devons apprendre. Il y a un texte, j'ai pas la référence, mais on faisait mention avec un frère au milieu de nous. Cette parole, elle n'est pas flatteuse non plus, hein, qui est dite dans l'épître aux Hébreux. J'en suis encore à vous donner du lait, dira-t-il. Vous en êtes encore au lait de bébé, alors que vous êtes au Seigneur depuis. Vous devriez être des maîtres, capables même d'enseigner les autres. Et vous en êtes encore au lait. Parfois, bon, il y a du vrai, hein? Il y a du vrai. Parce que plus on est fidèle dans les petites œuvres de Dieu, Jésus le dira, plus tu es fidèle dans les petites choses, plus le Seigneur va t'en confier de plus grand. De plus grand. pas forcément dans l'Église, mais des plus grandes dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que je suis utilisable déjà dans les petites choses? Est-ce que je suis capable de discerner les petites choses? Est-ce que je suis capable d'entendre la voix du Seigneur me dire « Ce que tu le fais, parce que je t'ai appelé à ça. » Savoir. Savoir placer toute chose devant Dieu. Dans le livre des Proverbes, c'est écrit, dans l'Ecclésiaste, c'est écrit « Tes projets, ok, c'est bien, mais place-les devant Dieu, parce que c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot. » Et si c'est un projet de Dieu, alors ça se fera. Ça se fera parce que tu es obéissant. Savoir rechercher la face de Dieu. Dans les conditions de David à Salomon, Dieu lui avait dit « Quand tu me chercheras, tu me trouveras. » Quand tu me chercheras, tu me trouveras. Et ça, c'est au pied de Jésus. J'ose dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut peut-être le dire, hein, éteignez votre ordinateur, n'allez pas surfer sur les sites, arrêtez, laissez ça de côté. La voix de Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, tous ces livres qui parlent de Dieu, fermez-les. Lisez la Bible. Déjà. S'il y a un livre que vous devez lire par-dessus tout, laissez le programme de la télé, laissez les revues, les magazines, parce que ça, c'est voilà, on aime bien. C'est pas un péché, attention. Hein. Vous pouvez lire plein de choses, des romans, des bandes dessinées, c'est pas un problème. Mais c'est quand ça prend la place de la parole de Dieu que ça devient un sérieux problème. Revenez à ces choses élémentaires. Et vous allez voir que Dieu va se servir de ces choses élémentaires pour vous parler. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles formules. Parce que Dieu a toujours voulu nous parler comme ça. Dans le secret de notre vie de prière et dans l'étude, dans la lecture de l'Écriture. Ça a toujours été ainsi. Ne nous laissons pas piéger par les technologies. Vous savez, il y a même des sites très chrétiens, attention, ils sont bien. Hein. Mais ils vous mâchent tellement le travail, c'est des logarithmes qui vous donnent le verset du jour. Et vous recevez un texto, voilà la pensée du Seigneur pour toi aujourd'hui. C'est très bien. Eh, c'est un ordinateur qui te l'a donné. C'est pas le Saint-Esprit, c'est un ordinateur. Alors, peut-être j'en choque quelques-uns, hein. Oui, mais c'est la parole de Dieu. Ouais, d'accord, mais vous savez que la parole de Dieu, celle qui va nourrir votre âme, c'est cette distinction entre le rhéma et le logos. Le logos, on peut tous le manipuler, et même les nouvelles technologies manipulent le logos. Mais le rhéma. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire du logos un rhéma. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut appliquer un verset de telle manière que ça devient une révélation. Un éclaircissement, les écailles, tous les yeux s'ouvrent, c'est comme si Dieu vous parlait en direct, le rhéma. Alors bon, c'est bien que vous receviez le verset du jour, le feuillet, vous savez le feuillet avec le verset, la petite histoire, c'est bien, mais ça remplacera jamais une vie de prière, ça remplacera jamais l'intimité avec Dieu. Ça remplacera jamais ce secret de votre chambre, où là, à genoux devant Dieu, vous allez percevoir la voix du bon berger. Parce que là, vous faites silence. Plus besoin d'outils, aussi bons soient-ils les outils, vous êtes seul avec Dieu. Moïse, quand il était sur la montagne, il n'avait pas son téléphone avec le verset du jour, il n'avait pas le feuillet, il n'avait même pas la Bible. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la nuée. La nuée. Il était dans la nuée. Et il est resté dans la nuée. Et quelque temps il est resté dans la nuée. Oh, la réunion, elle a duré longtemps. Hein. Elle a duré longtemps. Plusieurs jours, elle a duré la réunion. Mais il est resté. Vous savez pourquoi il est resté? Parce que Dieu lui a dit, tu montes. Et je vais te rencontrer. Dieu n'est pas venu dès le premier jour. Je crois qu'il va passer 7 jours. 7 jours. Il aurait pu se décourager. Nous, peut-être qu'au bout de la 7e heure, on aurait dit, bon Seigneur, peut-être je me suis trompé. Je vais redescendre. Hein. 7 jours. Il reste 7 jours. Et c'est au bout d'un certain laps de temps que Dieu va lui parler. Mais direct. Et je crois que les promesses, elles sont là. Jésus l'a dit, quand tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte, ferme ta porte, ferme ton portable, ferme tout, tu te coupes de tout. Et là, Dieu te le rendra, parce que Dieu le voit, Dieu t'entend, Dieu te... Une autre version a traduit, Dieu te récompensera pour le temps que tu lui as donné à rechercher sa face. Parce que la Bible dit que si on le cherche de tout notre cœur, Dieu se laisse trouver. Et quand on voit l'enjeu, il est là. C'est de vivre la volonté de Dieu, pas de notre salut, parce qu'on est de bons chrétiens, sauvés. Mais de faire et de vivre la volonté de Dieu au quotidien. Et ça, c'est au quotidien que ça se recherche. Prenez l'habitude, je ne sais pas si vous le faites, mais prenez l'habitude déjà dès le matin. Seigneur, je te remets cette journée. Seigneur, je te remets cette journée, conduis-moi dans ce que tu as préparé aujourd'hui. Voilà une bonne prière. C'est une bonne prière, ça, à faire, dès le matin. On ne sait pas comment les journées vont se dérouler, on ne sait pas. Il y a le travail, mais des fois, il peut se passer des choses particulières. On ne sait pas. Il est bon de prier, de s'offrir à Dieu dès le matin. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu voudras aujourd'hui. Moi, tu connais mes engagements, mes responsabilités, mais toi, tu es au-dessus de tout ça. Sers-toi de moi, donne-moi d'entendre ta voix, donne-moi des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit quand il me parlera. Et si vous priez comme ça de tout votre cœur, mais tous les jours, mais c'est sûr, au bout d'un moment, mais vous allez entendre la voix du Seigneur et vous allez vivre les œuvres de Dieu. À un niveau peut-être très simple, mais peu importe, si c'est les œuvres de Dieu. Mais si vous êtes fidèle dans ça, les choses de Dieu vont prendre une ampleur plus grande. Parce que Dieu vous en confiera de plus grandes. Vous priez le matin? Pas le dimanche matin, hein? Non, le lundi matin, le mardi matin, le mercredi, le jeudi, et même le vendredi, et même le samedi. Pourtant, tu restes au lit un peu plus longtemps, mais tu peux prier aussi. Il faut. C'est ça ce que dira l'apôtre Paul, cette piété à laquelle on doit s'exercer. La piété qui produit, dira l'apôtre Paul, la vie éternelle. La foi, j'y reviens, hein. La foi, oui, la foi sauve, la foi t'amène à la justification. Mais si la foi t'amène pas aux œuvres que Dieu a préparées par la sanctification, Jacques dira, est-ce que tu crois que cette foi peut te sauver réellement? Elle est inerte. Elle est inerte, elle produit rien. Pourtant, nous devons produire les fruits de la vie éternelle au travers de la piété et de la sanctification. C'est ce qui nous rend utilisables, des vases d'honneur utilisables par le Seigneur pour des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. C'est important, très important. Je ne sais pas comment vous le percevez, je ne sais pas comment est votre vie chrétienne. Je connais un petit peu, mais je suis sûr que nos vies chrétiennes peuvent prendre une ampleur tellement plus grande qu'on peut être heureux d'être chrétien. Mais tellement heureux que les gens le voient. On peut même avoir ce sentiment d'être utile entre les mains du Seigneur. Et ça ne court pas les assemblées, hein. Oh, moi, je fais rien dans l'église, Dieu m'a oublié, je peux rien faire, il n'y a pas d'animal. Ce sentiment que ton salut t'amène à quelque chose de concret, parce que ta foi est concrète. Ce sentiment qui t'amène à cette approbation, qui fait que même quand la tempête souffle, quelque part tu es en paix, parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Ça va vraiment très loin, hein, cette particularité de la vie, de la volonté spécifique. Je terminerai avec cet exemple, parce que ouais, ça illustre parfaitement la chose. C'est Paul de Tarse et Barnabas, qui à un moment donné, ils sont en train de jeûner et prier, et il y a toute l'église. Et le Saint-Esprit se met à parler. Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Pourtant, ils sont déjà dans l'Église, ils sont déjà actifs, ils agissent, ils travaillent déjà, ils font des choses déjà. Mais là, c'est le moment. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les choses vont se faire naturellement. Naturellement. Dieu voudrait tellement nous mettre à part pour des œuvres qu'il a déjà préparées. Mais voilà, on a du mal. On a du mal parce que nous sommes en lutte avec la chair, notre chair. C'est pour ça que je disais en introduction, la marche avec le Seigneur, c'est tu veux suivre Jésus, ben tu portes ta croix tous les jours. Et plus tu vas la porter, et plus tu vas mourir. Et plus tu vas mourir, plus l'Esprit, tu vas le comprendre et le discerner et percevoir ce qu'il attend de toi. Et plus la chair revendique, plus la chair essaie, plus la chair veut faire des choses pour Dieu, parce que on veut plaire à Dieu, mais plus tu veux le faire de toi-même, plus tu t'éloignes du chemin de la volonté spécifique du Seigneur. Terrible. 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 Cette histoire-là. L'œuvre de Dieu, c'est que nous fassions les œuvres du Seigneur. Amen. La foi, c'est bien. Ça vous a fait rentrer dans le plan de Dieu, mais les œuvres vous maintiendront dans le plan de Dieu. Sauvés pour servir, nous disons, et c'est pour ça qu'à la fin, à l'enfer, il y aura le tribunal de Christ. Ça remet pas en cause le salut, attention, hein. Ça remet en cause votre façon d'avoir vécu dans le salut. Soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance, soit dans la soumission, soit dans la docilité ou l'insoumission. Et Dieu va vous récompenser pour toutes les choses que vous avez faites, parce que c'était Dieu qui vous conduisait à les faire. Jusqu'au verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Dira Jésus. Il est bon de faire les choses que Dieu a préparées d'avance. Il est bon parce que Dieu... Les notes, les consignes, et rien ne sera oublié, rien. Et là-haut, tout sera mis en lumière, C'est la fameuse, c'est le fameux récit de l'apôtre Paul qui dira, le fondement c'est Christ, on n'y touchera pas, mais comment vous construisez votre vie chrétienne sur le fondement? Est-ce que vous choisissez les bons matériaux? Est-ce que ça va résister au feu? Pas le feu de l'épreuve, le feu du jugement, du regard de Dieu. Quand vous serez devant Dieu, pourra-t-il dire, bon et fidèle serviteur, tu as fait ce que je t'avais appelé à faire, c'est bien, je te récompense pour ça. Pourtant, ça mérite, hein. Tu l'as fait parce que c'était normal, mais je vais te récompenser pour ça. Mais si devant Dieu, Dieu est obligé de vous dire, mais ok, t'as fait ça, mais je ne t'ai pas demandé de faire ça. On perd la récompense. Pas le salut, la récompense. Pas pareil, deux choses différentes, hein, faut bien distinguer la chose. Saint-Esprit, éclaire nos yeux, ouvre nos yeux, donne-nous sagesse, intelligence. On veut s'approprier la prière de Salomon. Seigneur, donne-moi toute la sagesse et le discernement pour ne pas faire n'importe quoi, mais me maintenir dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. On prie le Seigneur, parce que je pense qu'il n'y a que ça, hein, devant ça. Devant ce programme, il n'y a que dans la prière que les choses se mettent en place, que dans la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Et c'est déjà là une manifestation de ta grâce. Merci Seigneur, parce que maintenant, tu veux te servir de nous. Et c'est encore une manifestation de ta grâce. Que sommes-nous sous ton saint regard? Que des serviteurs inutiles, mais des enfants bien-aimés. Que tu as choisi, que tu as établi et que tu vas qualifier pour des œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur notre Dieu, la prière que nous te faisons, c'est donne-nous des oreilles pour entendre ta voix. Donne-nous sagesse, intelligence, discernement pour comprendre au quotidien ces œuvres que tu as préparées d'avance. Donne-nous le discernement selon l'Esprit, pour les percevoir, pour les comprendre et surtout pour y rentrer pleinement et de ne pas nous égarer dans des choses à laquelle tu ne nous appelles pas. Seigneur, oui, finalement nous avons besoin de toi tous les jours pour éviter de nous perdre nous-mêmes. Tous les jours, nous avons besoin de te rechercher pour nous maintenir sur le chemin de ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Oh, crée en nous ce lien, ce sentiment de dépendance. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Tu nous l'as dit, on ne peut rien faire sans toi. Alors, donne-nous par ton esprit un fruit qui va durer, un fruit durable. Tu nous as sauvés pour ça. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.